On vivait au milieu des poussières et des champs. Celles laissées par les industries de la Delorme, l'usine d'alumine, notamment celle des camions qui passaient et repassaient toute la journée. On faisait le ménage, le gros ménage printemps. Et pour cela, on se retrouvait à plusieurs pour laver les tapis, les peaux de mouton, les couvertures. Et pour ça, on ouvrait les bouches d'incendie. Et au fur et à mesure, on rencontrait donc les pompiers qui nous apprenaient aussi à fermer ces bouches d'incendie par nous-mêmes. Et ça nous permettait de temps en temps de nous rafraîchir.
Mon père a grandi dans un petit village qui s'appelle Chnena, pas loin de Mostaganem en Algérie. Il a grandi dans ce village. Il a pris le chemin en fait de l'exil par la guerre, puisque il s'est engagé très jeune pour l'armée française. Donc il se retrouve très jeune en France dans les années 1940. Il est issu d'une famille où il n'a pas connu son père et sa mère, très peu du moins. Et il est l'aîné de la famille, donc il a trois frères et une sœur. Malgré l'exil, ils ont gardé des liens importants par l'échange autour de cassettes qui s'envoyaient, parce que ce moyen-là permettait d'échanger, de se parler, de connaître les nouvelles de là-bas et d'ici. Et c'était très très important à ces moments-là.
Cher frère, tu es notre grand frère et notre père à tous. Aïcha, notre sœur, a enfin trouvé un mari qui est de Harzeau, gentil et travailleur à la raffinerie de pétrole. Toiti va mieux depuis sa chute de l'échafaudage. Nous sommes tous autour de lui en espérant que Dieu lui redonne la santé et qu'il te rejoigne. Je suis heureux de dire que tu as enfin trouvé un toit pour ta famille à Bassens. Ici, nous restons suspendus à la réception des mandats. C'est ton neveu qui travaille à la Talia.
La mère de Yamina rejoindra seule son mari avec ses quatre garçons, avec le bateau Le Liberté. Elle débarque à Marseille, dans la ville, et dort durant 5 nuits, dans un hôtel connu pour recevoir les immigrés et leurs familles. Le père de Yamina les amènera ensuite à Cannes. Bendehiba Benchini connaît la métropole. Il a combattu sous les drapeaux français de mars 43 à novembre 45 au sein du 2e régiment de tirailleurs algériens. Il a fait la guerre d'Indochine où il a été blessé. C'était un ancien combattant, mais il n'a obtenu une pension que très tardivement parce qu'il était de nationalité algérienne. Ce n'est qu'après la sortie du film Les Indigènes qu'il a pu percevoir une indemnité et enfin construire une maison au bled.
Après la guerre, mon père il reste donc toujours en France, mais il change de statut, il est un zoufri, un émigré comme on dit, qui cherche du travail. Donc il trouve du travail à la mairie de Cannes où il s'installe. Il a une maison que la mairie lui met à disposition pour les enfants, pour ma mère, et il reste à travailler pendant des années. Sauf que la guerre d'Algérie se termine en 1962 et lui redevient normalement algérien. Et la mairie de Cannes, son employeur, lui demande d'accepter la nationalité française pour continuer à rester à travailler dans cette mairie. Et ça devient impossible pour mes parents parce que c'est impossible d'accepter le travail et la maison et donc d'avoir cette nationalité-là qui est trop compliquée pour lui. Donc il décide de tout quitter, le travail et la maison, et partir sur Marseille avec les enfants pour s'installer.
Voilà. Trop de douleurs et de morts. Yamina elle-même a mis des années à devenir française. Seulement en 1990, après la naissance de ses enfants et la mort de son frère Hamida, tué par un raciste sur la bretelle des Arnavaux de l'autoroute A7.
On arrive... C'est un passage un peu difficile, mais un passage court. Avec ma famille, on arrive au bidonville de Saint-Barthélemy. Et c'est un temps, on arrive en hiver, et c'est un temps qui est court quand même, parce que c'est pas un grand souvenir, mais c'est qu'on a fait ce passage-là. Et ensuite, on est hébergé à la Cité Bassins, et j'ai un souvenir où tous les adultes qui étaient autour de moi, ils étaient contents d'accéder à des petits logements à la Cité Bassins. On ne savait pas qu'est-ce que c'était une cité d'urgence, hein, mais bon. Et c'était des petits appartements, deux petites chambres, un salon, salon-cuisine et un petit WC qui faisait double fonction, WC et douche, parce qu'il n'y avait pas de douche a priori. Et moi, j'ai souvenir que bon, c'était un moment important pour mes parents de quitter les baraques.
Journaliste, reporter et photographe, Pierre Siot collabore avec la presse écrite. Il est rapidement amené à témoigner des conditions de vie des populations issues de l'immigration.
Je réalise ainsi un premier reportage photographique à la cité La Paternelle, dite cité d'urgence, en 1977.
Il se rend pour la première fois à la cité Bassins en juillet 1979. Il est alors commandité par le journal Libération pour un reportage sur une descente de police violente lors d'un mariage organisé dans la cité. Les habitants scandalisés par cette violence gratuite organisent une conférence de presse. Les jeunes guideront Pierre. Il réalise ses premières photographies sur Bassins.
Je découvre les immeubles délabrés, la vie dans ce quartier, la cohabitation entre Algériens et Gitans, et surtout, je noue des liens d'amitié durables avec les jeunes, dont Yamina. Pour ma part, je tente de faire le lien entre ce métier de journaliste et aussi mon action militante pour faire connaître cette situation, pour accompagner les luttes qui s'organisent pour dénoncer ces conditions de vie.
En fait, c'était le mot qui convient, c'était un ghetto, parce que c'est une cité qui était habitée que par des Arabes et des Gitans, 90% d'Arabes, de Maghrébins, et ils étaient parqués là, dans la cité d'urgence. Ils venaient aussi de plusieurs bidonvilles, donc c'est quand même assez fermé comme lieu parce qu'on était entouré d'un chemin de fer, on avait les usines et les entreprises sur le côté et c'était assez fermé, géographiquement assez fermé. Donc on était à proximité de l'usine d'alumine qui elle produisait des bouts rouges, et c'est vrai que quand on traversait une partie de la colline pour aller à Saint-Louis, ben on avait les traces quoi, sur les pieds, sur les vêtements, et en fait les gens ils disaient de nous qui vivons dans la cité à Bassins, ils disaient pas les gens de Bassins, ils disaient les gens de Trabl Ahmar, les gens de la terre rouge.
La prise de conscience de classe arrive très tôt. L'enfermement subi du fait du contexte de la cité, d'urgence, tout cela a permis pour moi de développer des capacités d'aller vers le monde, de casser le processus dit normal qui était en fait de se renfermer dans sa propre misère. La prise de conscience de classe sociale a mené un travail de réflexion pour aller vers l'extérieur. L'extérieur, la ville, Marseille. Et cela a permis vraiment de construire une pensée collective pour lutter contre l'injustice.
Très vite, je me suis senti solidaire de tous ces jeunes, Moi aussi, j'étais jeune. Et avec mes amis Saïd, Raïb, Yamina et Fatima, je partageais ce sentiment de rejet et d'exclusion qui nous était commun.
Ces photos participent au récit, témoignent du lien de solidarité, de la rencontre, des luttes, mais aussi des fêtes qui s'organisent. Bassins, dans l'imaginaire de la ville, est aussi devenu le symbole de la résistance. Cette cité a fait émerger beaucoup de personnalités dans tous les domaines de la vie artistique, culturelle et militante en faveur de l'égalité des droits des immigrés. Ils n'imaginaient pas à l'époque que ces photographies allaient participer de cette transmission.
On vivait ensemble et on était déjà bien parce qu'on arrivait à s'organiser, à être très solidaires. Et de cette solidarité, on était aussi en capacité à recevoir les gens de l'extérieur, notamment les militants qui venaient nous rencontrer pour mener un combat collectif par rapport à la justice, par rapport à l'égalité des droits. Et dans ce cadre-là, moi j'ai rencontré Samy Josua, par la suite Pierre, pour mener un combat commun pour une place dans cette société.
Leur rencontre s'est faite à Bassins lors du premier reportage de Pierre. Il découvre le quartier, les militants nombreux et la cité. Il a toujours été bien accueilli là-bas. Il s'y est fait des amis et des camarades de lutte. Il partage leurs revendications. Il se sent familier d'une ambiance qu'il découvre, de sons, des odeurs, l'entraide. Il a particulièrement été marqué par la fête de l'Aïd el Kbir en 79. Les femmes grillaient les têtes, le fameux bouzlouf, et les pieds de mouton. Autour de ces grands brasiers, il se souvient des enfants qui chahutaient en habits de fête, les groupes de jeunes qui accompagnaient les moutons, des hommes et des femmes qui procédaient à l'abattage rituel. Il était accepté dans ces moments intimes et beaucoup d'entre eux venaient pour se faire photographier.
Chaque photo témoigne aujourd'hui de leur vie, de leur attachement au quartier, malgré l'adversité qu'ils y ont rencontrée.
Ce n'était pas toujours facile la vie à Bassins, c'est vrai, mais en même temps, il y avait des moments, moi j'ai un souvenir franchement agréable, puisqu'on arrivait à se retrouver entre nous et à donc jouer des instruments de musique, de chanter, de danser. Donc on avait des temps où on se retrouvait pour un petit peu améliorer, parce qu'on était aussi dans les fêtes, dans les mariages, et du coup on arrivait à avoir des moments très 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 sympas de souvenirs que j'ai, et c'était des moments qui nous permettaient de nous échapper.
Yamina a contribué à apporter l'engagement féministe aux luttes de l'immigration. Elle sait faire converger les luttes antiracistes avec les revendications féministes. Celles-ci aboutiront à la création d'une association antiraciste Bastinor, et puis plus tard de la FMA, son association, l'Association des femmes maghrébines en action.
Elle se sentait légitime à porter ces deux combats. La dynamique de décloisonnement et d'ouverture de Bassins sur Marseille exprimait un sentiment de fraternité. L'engagement de Yamina va plus loin, avec l'expression de l'adhésion aux valeurs de liberté et d'égalité.
On a été hébergé dans l'urgence, dans la cité de transit de Bassins. Et c'est une transition qui a duré 30 ans, une vie. Ma famille, comme les autres familles de Bassins, vivait des moments heureux et des moments parfois malheureux. Le jour de la démolition de la cité, j'ai vécu un moment intense de joie. Parce que voir ces bulldozers casser en deux, en trois fois ces blocs,
C'était un moment où je pouvais repenser un nouveau départ. Le passage vers un nouveau projet dans ma ville, c'était un passage important.